Gaston Leroux, La poupée sanglante. Chapitre 1, derrière les rideaux. Bénédicte Masson avait sa boutique dans un des coins les plus retirés, les plus paisibles et aussi les plus vieillots de l'île Saint-Louis. Bénédicte Masson était relieur d'art, ce qui ne l'empêchait pas de vendre des cartes postales et de se livrer à un petit commerce de papeterie dans ce quartier désuet, manière de province dans la capitale, qui semble défendue par sa ceinture d'eau de cet éternel bacchanal que l'on est convenu d'appeler la vie parisienne. Dans cette rue dont le nom a été changé depuis et qui s'appelait, ou il n'y a pas bien longtemps encore, la rue du Saint-Sacrement en Lille, à l'ombre de vieux hôtels qui furent, il y a 2 siècles, le rendez-vous de tous les beaux esprits, se sont ouverts, ou plutôt entrouverts, une demi-douzaine de boutiques, quelques débits, un modeste magasin d'horlogerie, dans la prétention exorbitante d'y entretenir un semblant de vie. Eh bien, c'est de cette petite rue, habitée par notre relieur, c'est de ce quartier, qui semblait ne devoir plus exister que par ses propres souvenirs, qu'est sortie l'une des plus prodigieuses aventures de cette époque, et à tout prendre la plus sublime. Sublime, l'aventure de Bénédicte Masson l'a été sûrement, car elle fut une date avec un grand D dans l'histoire de l'humanité, mais en même temps que sublime, elle fut aussi épouvantable. Et Paris, qui n'en a surtout connu que l'épouvante, en tressaille encore. Pour juger à bon escient, il faut la prendre à son origine. Traversons le Pont-Marie et regardons autour de nous. Si nous admettons que la vie ne se traduit exclusivement point par le mouvement, nous pouvons envisager cette vérité que dans l'île Saint-Louis, plus que partout ailleurs, il y a toujours eu une vie intense, mais dans le domaine intellectuel. Sans évoquer les ombres lointaines de Voltaire et de Madame du Châtelet, les peintres, les poètes, les écrivains y ont de tout temps élu domicile. Georges Sand, Baudelaire, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, d'Aubigny, Corot, Barry, Daumier y installèrent leurs pénates. À l'angle de la rue Le Regrattier, qui autrefois était la rue de la Femme sans tête, se dresse au fond d'une niche une vierge mutilée qui a vu défiler toute la pléiade romantique. Notre Bénédicte Masson, qui n'était pas seulement relieur d'art mais poète, un étrange poète, comme on en a vu quelques-uns en ces temps-ci qui sont troubles, prétendait habiter la chambre même où avait vécu quelque temps et souffert l'auteur des Fleurs du Mal. Naturellement, il en concevait dans son humilité un singulier orgueil. Mais nous ne saurions mieux connaître Bénédicte Masson que par lui-même. Comme tous ceux qui croient être agités par quelque démon supérieur, il se complaisait à tenir registre des moindres événements d'une existence qui apparemment semblait s'être déroulée jusqu'au jour où nous sommes arrivés. Bénédicte Masson pouvait avoir dans les 35 ans, dans la plus terne monotonie. Je souligne le « apparemment » parce qu'il s'est trouvé des gens pour prétendre que ces sortes de mémoires, tracées au jour le jour, avaient été rédigées dans un but des plus intéressés, ne relatant que ce qui pouvait faire croire à l'innocence d'un monstre qui vivait dans la crainte perpétuelle que l'on ne découvrît ses crimes. Ceux qui ont prétendu cela avaient bien des excuses et peut-être bien des raisons, mais avaient-ils raison ? C'est ce que nous verrons un jour. Pour moi, j'ai toujours été frappé de l'accent de sincérité qui se trouve dans les mémoires de Bénédicte Masson, même et surtout dans leurs passages les plus désordonnés. À la date qui nous occupe, nous sommes fin mai. La journée avait été chaude. Le printemps, cette année-là, était un des plus précoces qu'on ait vu depuis longtemps à Paris. Il est 9h du soir. Dans ce coin de rue déserte, noyé d'ombre, le dernier bruit qui s'est fait entendre a été le timbre de la porte du magasin de Mademoiselle Baresca, mercière, qu'elle fermait elle-même après avoir mis le volet. De la lumière encore à deux vitres, celle du relieur et celle de l'horloger. La boutique de Bénédicte Masson faisait face, ou à peu près, à celle du vieux Norbert, que l'on ne voyait guère sortir que le dimanche pour aller à l'office à Saint-Louis en Lille avec sa fille et son neveu. Le reste du temps, il restait caché derrière ses rideaux de serge verte, penché sur ses outils, travaillant fort mystérieusement à des travaux qui, au surplus, dans la partie, l'avaient déjà rendu célèbre. Il avait inventé une sorte de régulateur qui eût pu faire sa fortune, mais qui n'avait réussi qu'à le dégoûter à jamais des hommes d'affaires. Maintenant, il ne semblait plus travailler que pour l'art, à la poursuite d'une chimère où d'autres, avant lui, avaient laissé leur raison. Ses confrères, avec lesquels il avait rompu tout commerce, s'entretenaient de lui avec une condescendance attristée. Les plus renseignés parlaient d'une sorte d'échappement contraire à toutes les lois connues de la mécanique et grâce auxquelles le malheureux prétendait réaliser le mouvement perpétuel. C'était tout dire. En attendant, on pouvait voir à sa devanture un fort curieux ouvrage d'horlogerie dont les engrenages extérieurs prenaient des formes jusqu'alors inconnues. Il y avait entre autres pièces bizarres des roues carrées. Cependant, les habitants de l'île affirmaient que ce mouvement durait depuis des années et qu'il ne remontait jamais. Mademoiselle Baresca, la mercière, en eut mis sa main au feu. Bref, entre le pont Marie et le pont Saint-Louis, le vieux Norbert faisait figure d'un personnage un peu diabolique. Ce soir-là, Bénédicte Masson n'avait Dieu derrière ses rideaux que pour la boutique de l'horloger, et nous pouvons dire tout de suite que ce n'était point la vue du vieux Norbert qui l'empêchait de travailler. Sa fille venait de pénétrer dans l'atelier. Parcourons maintenant les mémoires un peu désordonnées de Bénédicte Masson. Nous serons immédiatement renseignés sur bien des choses. « La voilà, dit Bénédicte dans ses mémoires, la voilà telle que je me la suis toujours imaginée, celle à qui je dois donner ma vie. La voilà telle que Dieu l'a faite pour mon cœur d'homme avide de beauté et de mystère. Non, non, en vérité, il n'y a rien de plus beau au monde, ni de plus mystérieux que cette Christine. Rien de plus calme au monde. » Qu'y a-t-il de plus mystérieux que le calme et de plus profond et de plus insondable? Les flots en furie m'intéressent, mais une mer calme m'épouvante. Les yeux calmes de cette Christine m'effraient et m'attirent. On peut se perdre dans des yeux pareils, c'est l'abîme. Mais les imbéciles ne comprennent pas cela. Qui comprendrait Christine? Pas son vieil abruti de l'horloger de père, assurément toujours penché sur ses roues carrées et qui n'a peut-être pas vu sa fille depuis des années, ni son nigodiche de cousin, le fiancé de Jacques, le phénomène de l'école de médecine, oui. Oh, un sujet exceptionnel, paraît-il, et qui a quelque chose comme prosecteur à la faculté, oh, oh, un bûcheur, un brave garçon, qui fait les quatre volontés de la demoiselle, qui passe son temps en dehors des travaux de l'amphithéâtre à la regarder, mais qui ne la voit pas. Il y en a des tas comme celui-là qui la regardent parce qu'elle est belle, mais je suis le seul à la voir, moi, Bénédicte Masson. Cette fille-là n'a rien à faire avec les poulettes d'aujourd'hui. La taille et l'air d'une archiduchesse, ni plus ni moins, plutôt plus que moins, une nuque de déesse, au-dessus de laquelle se tord une chevelure aux reflets de vieux cuivre. Quand elle suspend à la patère le chapeau dont elle vient de se défaire, comme en ce moment, elle a la cambrure et tout le mouvement du bras de l'Amazone du Capitole, ce qui n'est pas peu dire à mon goût, car je n'ai jamais vu dans tous mes voyages d'aussi belle Diane. Ce que doivent être ses jambes, ses nobles jambes, la pensée ne peut s'y attacher sans être en flamme, pour peu qu'on l'ait vue marcher, se déplacer. C'est à baiser la trace de ses pas. Quant au visage, il est d'un ovale parfait, mais le nez a heureusement une courbe légère qui enlève de la froideur à toute cette régularité. Le dessin de la bouche est d'une pureté angélique, la lèvre n'est point charnue. Là est la beauté idéale et vivante. Cette belle personne qui est une artiste et qui donne des leçons de modelage pour vivre ne devrait avoir d'autre modèle qu'elle-même. Mais tout cela, tout le monde le voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a au fond de son calme et fatal regard, au fond de ses yeux-là, il y a, je vais vous le dire, l'étonnement immense, prodigieux, et qui ne cessera jamais de vivre. Elle qui était faite pour l'Olympe, au fond de cette misérable boutique de l'île Saint-Louis, entre cet horloger et ce carabin. Cela dit, elle aime son père et son cousin, avec qui elle se mariera un jour, dit-on, le plus tard possible, espérons-le. Ah, misère, comment ne se suicide-t-elle pas ? C'est qu'elle est en même temps la beauté et la vertu, magnifique comme une statue païenne, sage comme une image de Michel. Ah, il n'y a rien à dire, c'est la Madone de l'île Saint-Louis. Eh bien, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé ce soir. Le vieux Norbert, sa fille et son neveu n'habitent pas sur la rue. Il n'y a là que la boutique. Ils logent dans un pavillon qui est séparé de la boutique par un jardin. Ce pavillon, je ne l'ai jamais vu, à l'exception d'une femme de ménage qui vient chez eux le matin, personne ne pénètre jamais là-dedans. Or, voilà que j'ai trouvé le moyen d'apercevoir le pavillon. Oui, cette nuit même, après que les lumières furent éteintes sur la rue, je me suis introduit par une échelle dans le grenier de la maison que j'habite et par une lucarne, j'ai vu. Le pavillon a deux étages. Le deuxième étage est transformé en sorte d'atelier vitré auquel on accède par un escalier de bois extérieur. L'horloger et le neveu couchent au premier. Christine couche dans l'atelier. Il faisait un clair de lune éblouissant. Christine resta plus d'une heure accoudée à la rampe qui court tout au long de l'atelier, formant balcon. Quelle nuit pour un poète et pour un amoureux! Soudain, elle quitta le balcon et d'un pas furtif descendit quelques marches de l'escalier. Puis elle s'arrêta et prêta l'oreille du côté de l'appartement de son père et de son fiancé. Enfin, elle remonta, toujours avec de grandes précautions. Elle pénétra dans l'atelier, se dirigea vers un énorme bahut qui en occupe le fond, sortit une clé de sa poche, ouvrit la porte de l'armoire. Et je vis sortir de cette armoire un homme qu'elle embrassa. Et puis je ne vis plus rien, car elle s'était empressée de fermer la porte-fenêtre et de tirer les rideaux. Chapitre 2, où Bénédicte Masson n'est pas au bout de ses étonnements. La nuit que je passais, il est facile de l'imaginer. Moi qui avais tout vu dans le regard de Christine, je n'avais pas prévu cela. Un monsieur caché dans une armoire. Ah, décidément, je ne serai jamais qu'un poète, c'est-à-dire la plus pauvre chose qui existe au monde. Mais tu étais tout pour moi, mon amour. Pour toi, mon âme languissait. Tout pour moi, une île verte dans la mer, une fontaine et un hôtel tout enguirlandé de fruits et de fleurs féeriques. Mais je n'avais pas prévu cela, le monsieur dans l'armoire. Désormais, la coupe d'or est brisée, que le glas sonne. Encore une âme sainte qui flotte sur le flot noir. Une de plus, ah, les filles de Satan. Eh bien, je vais vous le dire. Cette nuit d'insomnie ne fut pas remplie seulement par le désespoir, la rage contre ma stupidité innée, mais aussi par une espèce d'allégresse diabolique. Et vous allez comprendre tout de suite ce sentiment complexe. J'adorais Christine non seulement comme un ange, que je continuerai toute ma vie de pleurer, mais je l'aimais aussi comme une femme, comme la plus belle des femmes, et là était mon supplice. Car cette femme, je savais qu'elle ne serait jamais à moi, qu'elle ne m'aimerait jamais, que je ne pourrais peut-être jamais en approcher. Mais l'atrocité de cette absolue certitude était encore doublée par l'idée que ce joyau de Dieu, un beau jour, le carabin d'en face, le prosecteur modèle, le menuisier de la chirurgie, se le passerait au doigt et irait trouver monsieur le maire pour les justes noces. Or, le monsieur de l'armoire, que j'aurais tué comme un chien, l'occasion s'en présentant, tout de même je lui en voulais moins qu'à l'autre, car il me vengeait, et comment ? Et voici qu'il est temps que je vous dise pourquoi je n'avais aucun espoir du côté de Christine. Cela tient en trois mots. Je suis laid. Le cousin non plus n'est pas beau. Il est quelconque, ce qui à mes yeux est pire. Son Jacques... Je l'ai bien observé quand il passe sous mes fenêtres, à la taille plutôt épaisse. C'est un petit homme court, dans les 28 ans, myope, au large front blanc, aux pommettes saillantes, à la bouche saine, mais trop grande, entouré d'une courte barbe blonde qui semble avoir la douceur et la faiblesse des cheveux des tout petits enfants. Quand il se découvre, il montre un crâne déjà dénudé par l'étude. Voilà le héros. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin, ce n'est pas un monstre et avec un titre à la faculté. Ça peut faire un mari sortable. Mais moi, je suis un monstre. Je suis d'une laideur terrible. Pourquoi terrible ? Parce que toutes les femmes me fuient. Y a-t-il au monde quelque chose de plus terrible que cela ? Jamais mes bras ne se sont enfermés sur une femme. Elles n'ont pas pu. L'idée que je pourrais les embrasser, la seule idée de cela, les épouvante. C'est comme je vous le dis, je n'exagère rien. Ah, misère, misère, comme dit l'autre. Une vie de feu boule en mes veines. Chaque femme serait pour moi le nom d'un monde. J'entends à la fois... 1000 rossignols. Au banquet de la vie, je pourrais dévorer tous les éléphants de l'Hindoustan et prendre pour cure-dent la flèche de la cathédrale de Strasbourg. La vie est le bien suprême. Et moi, je ne puis pas vivre. Pourquoi cette affreuse gaine autour de mon cerveau ? Pourquoi cette asymétrie entre les deux côtés de mon visage ? Mon visage. Cette proéminence effrayante de sourcils, cette avancée subite de la mâchoire inférieure, pourquoi ce chaos ? L'homme qui rit était bien heureux, au moins il riait pour les autres. Mais moi, qu'est-ce que je suis pour les autres ? ni celui qui rit, ni celui qui pleure. Ma face est un mystère épouvantable. Vais-je me résoudre à avouer une chose qui m'entraînera peut-être plus loin que je ne le désirerais? Ma foi, dans l'état d'esprit où je suis, qu'ai-je à craindre, qu'ai-je à redouter? La pire aventure, la plus extraordinaire aventure peut m'arriver, elle ne dépasserait pas celle de cette nuit. Je n'avais plus qu'une raison de vivre, voir Christine, et depuis que je l'ai vue, embrasser un monsieur qu'elle cache dans une armoire, comme disaient les matelots. Adieu, Vat. Eh bien, il n'y a pas très très longtemps que je me vois aussi laid que cela. Il y a encore 2 ans, je m'imaginais que ma figure n'était point nécessairement pour tout le monde un objet d'horreur. Je savais bien, hélas, que je ne pouvais plaire aux femmes, mais j'avais encore des illusions. Réfugié dans ma tour d'ivoire, devant ma glace, je me prenais à qualifier ma laideur de sublime. Je me regardais de profil, de 3/4, je me faisais des mines, j'essayais différentes façons de me coiffer, je cherchais des modèles de laideur dont il n'eût pas été déshonorant de se rapprocher. J'en étais arrivé à me dire, par exemple, que je n'étais pas beaucoup plus laid que Verlaine, qui a été aimé, qui a su ce que c'est que l'amour, tout l'amour, si l'on en croit. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, nous joignions nos bouches, qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir, etc. Ah, la bouche de Verlaine, pèse à ses cendres, c'est mon plus grand poète. Tout de même, je me disais, s'il a été aimé, ce n'est certes pas pour sa beauté. Il y a donc des femmes capables de se laisser séduire uniquement par le rêve d'un poète, par ce que contient de divine liqueur le vase grossier créé dans un jour cruel par une nature ironique et marâtre. Le tout est d'avoir l'occasion de se faire comprendre. Cette occasion, voilà comme je la fis naître. À la dernière exposition des maîtres de la reliure, j'avais eu un joli succès. Mes reliures romantiques avaient obtenu un premier prix. Je fis paraître des annonces dans les journaux pour demander des élèves femmes. Je n'eus pas longtemps à attendre. Dès le lendemain, une jeune fille se présentait, Mademoiselle Henriette Havard, charmante, paraissant fort intelligente, disant qu'elle avait perdu ses parents, qu'elle était à charge à une vieille tante et qu'elle voulait gagner sa vie. Elle me proposa d'être en même temps mon élève et mon employé. L'affaire fut vite conclue. Je possède aux environs de Paris une petite villa à l'orée d'un bois, à quelques pas d'un étang, dans un endroit assez désert. Mais j'aime la solitude. J'imaginais sans peine que je l'aimerais davantage avec cette jolie fille. C'est là du reste que je travaillais tous les étés. J'y donnai rendez-vous à Henriette pour le lendemain. Ce soir-là, je m'étais tenu dans la pénombre. Le lendemain, à la campagne, elle put me voir au grand jour. Tant est que le surlendemain, je ne la revis plus. Je l'attendis 3 jours. Elle m'avait donné l'adresse de sa tante. J'allais chez cette tante et lui demandais des nouvelles de sa nièce. Elle me répondit avec assez d'indifférence, du reste, qu'elle ne l'avait pas revue. Je n'insistais pas, je ne voulais pas avoir l'air plus inquiet qu'elle-même. Sur ces entrefaites, une autre élève, femme, vint se présenter, Madame Claire Thomassin, une veuve, jeune également et jolie. Elle resta chez moi 1 jour. Cette fois, ce fut un monsieur dans les 50 ans qui vint, 48 heures plus tard, me poser des questions sur Madame Claire. Bah, je lui répondis que je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis son départ de chez moi. Il s'en alla fort triste. Eh bien, j'ai encore eu 4 élèves femmes. L'une est restée 5 jours, 2 autres au pas plus de 24 heures, la dernière est restée 3 semaines. Ah, avec celle-ci, j'ai bien pu croire que le miracle allait s'accomplir. Eh bien, au dernier moment, elle s'est éclipsée, comme les autres. Pour cette dernière, j'ai voulu en avoir le cœur net, et j'ai fait une enquête. Je n'ai pu savoir, nul n'a pu savoir ce qu'elle était devenue. Cette fois, je ne cacherai pas qu'une angoisse sourde, démesurée, commença de m'étreindre. Je n'oserais pas faire remonter mon enquête plus haut, redoutant d'apprendre que les 3 autres aussi avaient disparu. Il y en avait déjà 3, à ma connaissance, et c'était suffisant. Que les femmes me fuient parce que je suis laid, je comprends cela. Mais qu'elles me fuient jusqu'au bout du monde, qu'elles me fuient jusqu'à disparaître, qu'elles me fuient jusqu'au suicide, cela dépasse tout. Et qu'imaginez en dehors de ces hypothèses, mettez-vous à ma place, c'est épouvantable. Encore si, pour une raison ou pour une autre, pour 6 autres raisons, elles s'étaient toutes suicidées, on aurait retrouvé leurs cadavres, mais on ne les a retrouvées ni mortes ni vivantes. Mon Dieu, je parle comme si j'étais sûr du sort des 3 autres. Eh bien oui, au fond de moi-même, je crois que le même mystère les lie toutes les 6, le même mystère de mort. Et personne ne se doute de cela que moi, heureusement. Tout cela est tellement formidable et tellement absurde que je ne veux plus y penser. J'avais trouvé un très bon moyen de ne plus y penser, c'était de m'absorber dans la vision et dans l'amour de Christine. Et maintenant, je ne quitte plus des yeux la porte de l'horloger. C'est aujourd'hui dimanche, elle va sortir tout à l'heure pour aller à la messe, entre son père et le carabin. La voilà avec son grand air d'archiduchesse et son front de madone et son calme regard. Le carabin lui porte son livre de messe. Ah, moi aussi j'irai bien à la confesse pour elle. Mais aujourd'hui je ne les suivrai pas. Je reste derrière mes rideaux. Assurément, je vais voir sortir l'homme de cette nuit. Je veux savoir qui est son amant. Après, on verra ce qu'on fera. Voilà une demi-heure que j'attends qu'il sorte, et toujours rien. Aujourd'hui, dimanche, la devanture de la boutique montre visage de bois. Tous les volets sont mis, même à la porte vitrée. Et cette porte ne s'ouvre pas. Mais qu'attend-il? La rue est déserte, tout à fait déserte, et il ne peut sortir que par cette porte. Cette partie de l'immeuble habitée par cette étrange famille est ainsi faite qu'elle n'offre pas d'autre issue que celle que je surveille. En vérité, ils vivent enfermés là-dedans comme dans une prison, et le jardin intérieur, si tant est que l'on puisse donner ce nom à un quadrilatère planté de 3 arbres, m'a produit l'effet d'un préau entre ces 2 hauts murs qui l'étreignent et le défendent du regard. Ce coin de bâtisse et de jardin, habité par l'horloger et sa famille, avait fait partie jadis du fameux hôtel de Coultrai, dont l'entrée principale donne encore quai de Béthune et appartient toujours, événement unique dont tous les anciens hôtels de l'île Saint-Louis ne sauraient offrir d'autres exemples, appartient toujours au dernier représentant d'une famille illustre, comme on sait à bien des titres, au marquis actuel Georges-Marie-Vincent de Coulteret, marié assez récemment à la suite d'un voyage qu'il fit aux Indes anglaises, à la fille cadette du gouverneur de Delhi, Miss Bessie Cavendish. J'ai aperçu une seule fois, en passant un soir sur le quai, le marquis et la marquise au moment où ils sortaient dans leur magnifique auto qu'éclairait une lampe électrique intérieure. La marquise est une toute jeune personne qui me parut assez languissante mais non dénuée d'intérêt à cause d'une certaine beauté diaphane propre à quelques Anglaises mais qui tend de plus en plus à disparaître en cette époque de sport. À côté de cette héroïne Walter Scott, le marquis, en dépit de ses cheveux précommencement blanchis, faisait figure solide et bien vivante. Dans sa face rose où circule le sang généreux, brille un regard bleu d'acier, étonnamment jeune encore et émouvant pour un homme de 50 ans et plus. Georges-Marie Vincent est l'arrière-petit-fils du célèbre marquis de Coulteret qui, sous Louis XV, entre autres fantaisies, se sépara de sa femme, laquelle ne voulait point entendre parler de divorce ni quitter le domicile conjugal, s'en sépara, dis-je, par ce haut mur qui coupe encore maintenant la propriété en deux, laissant à la malheureuse ce petit pavillon où elle s'était réfugiée, où elle mourut séquestrée volontaire. C'est là que, la nuit, quand son père et son fiancé reposent, la vertueuse Christine reçoit son amant. Celui-ci, dont je continue de surveiller l'apparition sur le seuil qu'il doit forcément franchir pour sortir de sa prison d'amour, me fait bien attendre derrière mes rideaux. Et, ma foi, l'heure se passe sans que je vue s'entrouvrir la porte de l'horloger. Et l'horloger lui-même revient de la messe avec la fière Christine et l'intrépide fiancé. Alors le monsieur va passer encore toute sa journée dans son armoire, en attendant la nuit prochaine et les revanches qu'il s'en promet. Cette idée, dois-je l'avouer, ne contribue point beaucoup à calmer mes esprits, d'autant que je pense à une chose, c'est que si je n'ai point vu sortir le mystérieux hôte de Christine, je ne l'ai point vu entrer non plus. Et tout ceci fait que je dois me demander depuis combien de temps dure cette étrange idylle au fond d'une armoire. Je me surprends à rire férocement en pensant aux femmes en général et à celles-ci en particulier. Cette divine Christine dont mon cœur est plein, je lui souhaite quelques bonnes catastrophes pour le soulagement de mon âme et de la conscience universelle. Je ne sortirai pas d'aujourd'hui. 5 heures. Oh, ce qui vient de m'arriver est bien la dernière des choses à laquelle je m'attendais. Elle est venue. Elle est venue ici. Mais n'anticipons pas, car tout vaut la peine d'être raconté et je sens que je ne suis pas au bout de mes étonnements. D'ordinaire, l'après-midi du dimanche, les Norbert, père et fille, et Jacques Cotentin, le fiancé, sortent tous trois pour une petite promenade. Aujourd'hui, le vieux et Jacques sont partis tout seuls. La fille les a accompagnés jusque sur le seuil, leur a adressé quelques bonnes paroles qu'elle soulignait de son sourire de souveraine, puis elle a refermé la porte de la boutique. Et moi, je n'ai fait qu'un bond jusqu'à mon observatoire, là-haut, sous les toits. Je suis arrivé à temps pour l'avoir traversé le petit jardin et gravir l'escalier extérieur qui conduit à l'atelier, au dernier étage du pavillon du fond. La porte-fenêtre en était déjà grande ouverte sur le balcon et j'apercevais l'armoire. Elle l'ouvrit sans hésitation et l'homme en sortit. Elle le prit par la main et lui murmura quelque chose à l'oreille, Sans doute lui apprenait-elle que la maison était délivrée de toute fâcheuse présence et qu'elle leur appartenait pour quelques heures, car il se dirigea immédiatement sur le balcon à la rampe duquel il s'appuya, regardant en bas dans le jardin avec un air de profonde méditation. Cette fois, je le voyais bien et en détail. « Matin, elle sait les choisir, ses amants, la belle Christine. En voilà un tout à fait à sa taille, et tel que je n'imagine point qu'une fille d'Ève puisse en désirer le plus beau au monde. Ah, quand j'ai vu cette royale figure, ce magnifique morceau d'humanité, je jure que j'ai maudit le Créateur qui m'a fait ce qu'il m'a fait et qui a réservé pour celui-ci cette phase de victoire. Cet homme est dans toute la force de l'âge. Une harmonie parfaite dirige ses mouvements. Rien ne semble l'émouvoir. À côté de lui, Christine, qui l'en a toujours imposé par ses beaux airs impassibles, me paraît une petite folle. Il est vrai que je ne la reconnais plus et qu'elle a comme changé de nature. Avec son plus radieux sourire, elle l'appelle avec des gestes enfantins, Gabriel. Ma foi, il est beau comme l'ange Gabriel, ce jeune homme de 30 ans. Bah, comme ils sont beaux tous les deux, quel couple! Il faut que je vous dise maintenant comment Gabriel est habillé, car c'est bien encore là une chose pas ordinaire du tout. Il est enveloppé des pieds à la tête dans une cape à collet comme on en voyait au temps de la Révolution, et il porte, suivant la mode d'alors, de petites bottes à revers. Si bien qu'en le voyant sortir de cette armoire au fond de cette vieille demeure cachée de l'île Saint-Louis, on eût pu croire assister à quelqu'une des aventures du chevalier de Fersen, venu mystérieusement dans la capitale pour aider à l'évasion de la royale prisonnière. Il n'est point jusqu'à l'accoutrement de Christine qui ne se prête à l'illusion avec ce fichu Marie-Antoinette qu'elle a croisé sur son sein de Minu. Mais quelle comédie se joue-t-il là? Mais comment cela a-t-il commencé? Comment cela finira-t-il? Mais où sommes-nous? Je n'y comprends plus rien. Cet homme ne lui a pas encore adressé la parole, mais il a obéi à son appel. Gabriel descend l'escalier devant Christine. Les voilà tous les deux maintenant dans le jardin. Il s'est assis sous le platane devant une petite table garnie d'une nappe où se trouvent encore des fruits et des flacons. Je le vois mal. Je la vois mieux, elle. Elle tourne autour de lui. Elle lui parle, elle s'assied près de lui. Elle met sa tête sur son épaule. Je les vois de dos et l'arbre me gêne. Ils ne bougent plus. Ils restent ainsi, tendrement, l'un près de l'autre, pendant des minutes que je ne saurais compter, et qui ont été les plus cruelles de ma vie. Ah ! Une tête de femme sur mon épaule, et la tête de Christine. Oh, si je pouvais lui manger le cœur à l'autre. Enfin, ils se sont levés, ils se tenaient par la main. Ils ont gravi l'escalier, et elle le tenait toujours par la main. Et c'est elle qui l'a entraîné dans l'atelier et qui en a refermé la porte. Je suis redescendu comme un fou dans mon atelier à moi et j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré. Ces idiots de poètes disent qu'on pleure des larmes de sang. Je le saurais bien. Tout à coup, on a frappé à la vitre du magasin. C'était elle, elle qui ne m'avait jamais adressé la parole, elle qui avait toujours passé à côté de moi comme si je n'existais pas. J'ouvris en m'accrochant à la porte pour ne pas tomber. Elle me vit chancelant, hagard, les yeux rouges. Je suis horrible, je devais être hideux. Elle eut cette pitié suprême de ne s'apercevoir de rien. Elle me dit, avec un air de noblesse calme, qui tour à tour m'enchante, m'écrase ou m'horripile, « Monsieur Bénédicte Masson, vous êtes un artiste. Je viens vous confier ce que j'ai de plus précieux dans ma bibliothèque, ces 5 Verlaine que vous arrangerez à votre goût, qui est parfait. Vous aurez seulement la bonté de me montrer un de ces jours vos maroquins que je veux choisir de couleurs différentes pour chaque ouvrage. » Et comme je me précipitais gauchement sur un petit stock de peau qui me restait, elle leva sa belle main pâle. « Non, non, pas aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un peu pressée. » Et elle s'en fut avec son regard céleste et son front d'ange. Je n'avais pas prononcé une parole. J'étais comme anéanti. Tout équilibre était rompu en moi. Mais elle en avait le reste de l'équilibre. Il lui en fallait pour naviguer aussi tranquillement dans une histoire pareille. 2 heures du matin. Effroyable, cette comédie ne pouvait décemment durer. Je viens d'assister au plus rapide et au plus sombre des drames. Il était un peu plus de minuit. J'étais là-haut, souffrant tous les supplices, tandis qu'une lumière au dernier étage du pavillon témoignait que Christine ne reposait pas encore et tout à coup, en bas, dans la clarté lunaire qui inondait le jardin, j'ai vu paraître le vieux Norbert qui se mit à escalader l'escalier comme un chat. Et puis d'un coup d'épaule défonça la porte et il y eut la clameur de Christine « Papa !» Mais Norbert dressait déjà au-dessus de sa tête une arme formidable, quelque chose comme un chenet de bronze qui s'abattit, tandis que Christine suppliait « Oh, ne le tue pas, ne le tue pas !» Il eut une forme bondissante. L'homme qui vint crouler jusque sur le balcon en étendant les bras, tandis que l'arme terrible continuait à le fracasser. Et il ne bougea plus. Christine, délirante, s'était jetée sur sa poitrine. Et puis il y eut un silence extraordinaire. Le vieux, qui avait croisé les bras, montrait une figure de fou. À ce moment, Jacques sortit à son tour de son appartement et vint se mêler à la scène. Alors Christine se releva et dit « Papa l'a tué !» Le vieux prononça distinctement « Ben, il m'obéissait plus, et c'était de ta faute, j'aurais dû m'en douter !» Quant au fiancé, il ne dit mot. Il ramassa le cadavre, le poussa dans l'atelier où ils s'enfermèrent tous et où ils sont encore au moment où j'écris ces lignes. Chapitre 3. N'aurait-elle qu'un métronome sous son corsage? Gabriel est mort. Gabriel est mort, le vieux en a fait de la charpie. Moi, je ne considère plus que cela qui est capital, le reste s'expliquera après si c'est absolument nécessaire. Mais pour moi, il n'y a de nécessaire que la mort de Gabriel. Il n'est plus entre moi et Christine. En serais-je beaucoup plus avancé? Peu importe, mon cœur est rafraîchi de tout le sang que le vieux a répondu. Elle ne posera plus sa tête sur l'épaule de ce jeune homme, beau comme un demi-dieu, et je ne les verrai plus s'embrasser. Que vont-ils faire du cadavre ? J'ai attendu toute la nuit, mais la porte de l'atelier ne s'est pas rouverte. Alors, n'en pouvant plus de fatigue et d'émotion, je suis redescendu chez moi, je me suis jeté sur mon lit et je me suis endormi dans une allégresse immense. Au réveil, j'avais encore l'âme en fête. Gabriel est mort. Oh, ces cris de triomphe au seuil de la vie retrouvée. Ce cœur est grave et joyeux qui saigne dans ma poitrine. Comment osais-je écrire de tels mots de feu, me réjouir d'un lâche assassinat ? Ah bah, moi aussi j'opte pour le principe de Schelling. Les esprits supérieurs sont au-dessus des lois. Suis-je un esprit supérieur ? Peut-être oui, peut-être non. Mais à coup sûr, je suis un maudit supérieur. Et cela comporte des droits que ne comprennent point les autres créatures. Depuis que je suis au monde, Dieu m'a tenté. Attention, assez divagué, assez se vautrer dans le sacrilège. Redescendons sur la terre. Voici la femme de ménage qui vient frapper à la porte de la boutique. D'ordinaire, à 7h, 8h, le vieux est déjà derrière ses rideaux, penché sur ses roues carrées, et Madame Langlois n'a qu'à pousser la porte. Mais aujourd'hui, les volets sont encore en place. La mère Langlois, que je connais depuis bien, puisqu'elle me sert comme femme de ménage, moi aussi, est toute désemparée. Elle frappe de son poing desséché et impatient. Enfin, on lui ouvre. C'est le vieux. Elle entre et monsieur le prosecteur sort tout de suite dans la rue, presque en courant. Il doit être en retard pour son cours. Je le regarde bien au passage, à part ses sourcils froncés, il me paraît aussi insignifiant que tous les jours. La porte de la boutique est restée entr'ouverte. Je n'aperçois plus le vieux. Ah, entrer là-dedans, moi qui sais, moi qui pourrais voir. Car on s'arrangera bien pour que la mère Langlois ne voie rien, elle, mais moi. Et tout à coup, sans plus réfléchir, je saisis mon stock de peau et je traverse la rue et j'entre dans la maison du crime. Je traverse la boutique, la petite salle à manger qui se trouve derrière cette première pièce et dans laquelle la mère Langlois accomplit déjà les gestes de sa fonction. Le balai en main, elle m'interpelle au passage, mais je suis déjà dans le jardin. Là, je me heurte au vieux Norbert, stupéfait, anéanti devant cet événement extraordinaire. Un audacieux a osé franchir les 5 mètres carrés et sa boutique et se promène dans son jardin comme chez lui. Mais que voulez-vous, monsieur ? Finit-il par marmotter en fixant sur moi des yeux gris d'une hostilité aiguë. « Monsieur, je suis le relieur. Mais je croyais que ma fille s'était entendue avec vous. » Et il a ajouté quelques paroles entre ses dents, d'après lesquelles je crus comprendre que Christine avait donné à la visite qu'elle m'avait faite une importance qui lui avait servi de prétexte à ne pas accompagner l'horloger et son neveu dans la promenade du dimanche. À ce moment, la voix de Christine se fit entendre derrière nous. « Laisse monter, monsieur, papa !» Oh, je ne me le fis pas dire deux fois, et sans attendre la permission du vieux, que je laissais un peu désemparé, Je gravis en hâte l'escalier qui conduisait à l'atelier, sur le balcon duquel Christine restait penchée. Elle était aussi calme que je l'avais vue la veille chez moi, et rien dans son air, dans sa physionomie, ne présentait le moindre reflet du terrible drame de la nuit. Quelles étaient mes pensées alors? Aurais-je pu le dire? J'allais me trouver dans cette pièce où je savais que nul ne pénétrait jamais qu'elle, Christine, son père et son fiancé et leur victime, et cela quelques heures après l'assassinat. Et c'était Christine elle-même qui, du geste le plus naturel, m'en poussait la porte. Mes yeux étaient allés tout de suite aux solives du balcon, au plancher de l'atelier, à la table, au bahut, comme si je devais fatalement y trouver les traces sanglantes du crime. C'était enfantin. Du moment qu'elle me recevait là, c'est que le nécessaire avait été fait. Le nécessaire, mais le plancher ne paraissait même pas balayé. Rien dans cette longue pièce où le jour pénétrait à flots n'eût pu retenir le regard le plus averti, le mien, qui avait vu assassiner Gabriel. Bien mieux, je savais par les demi-confidences de la mère Langlois que le vieux et sa fille et le fiancé s'endormaient là des heures et des heures, tout rideau tiré sur les vitres pour une besogne de mystère qui, je l'ai déjà fait entendre, commençait à troubler quelques pauvres cervelles dans le quartier. Or, on pouvait en vérité se demander, après un coup d'œil sur ce banal atelier, si la mère Langlois n'avait pas rêvé. Un vaste divan dans un coin, des tentures, quelques toiles, des études, des modelages d'après l'antique, accrochés au mur, deux sellettes supportant une vague glaise entourée de linge desséché, une bibliothèque vitrée dans laquelle il n'y avait pas de livres, mais quelques statuettes polychromes, qui me rappelèrent que 2 ans auparavant, Mademoiselle Christine Norbert avait exposé aux indépendants un antinoüs d'étagère d'une singulière beauté, mais qui avait fait surtout parler de lui par la matière toute nouvelle dont il était fait et à laquelle on cherchait à donner un nom quand l'artiste avait un beau matin, sans explication, retiré son angoisse. Au fond de la pièce, une portière à demi soulevée, donnant sur une petite chambre qui était certainement la chambre de Christine. Mes yeux, qui ne pouvaient s'arrêter sur rien, retournèrent au bahut. Mais Christine me rappela tranquillement l'objet de ma visite en me priant de m'asseoir dans le fauteuil où, l'avant-dernière nuit, j'avais vu s'asseoir Gabriel. Si elle était calme, je ne l'étais pas. Ma cervelle était en feu, mes mains tremblaient. Elle s'assit en face de moi. Je n'osais pas la regarder. On lui avait assassiné la nuit dernière son amant et elle s'intéressait au grain et à la couleur de mes peaux. Elle me dit qu'elle me fournirait quelques dessins d'après lesquels j'aurais à établir une mosaïque. « C'est donc une reliure de grand luxe ?» demandai-je. « Oui, » me répondit-elle, « et je vais vous avouer que ces livres ne sont pas à moi et qu'ils ne sont pas pour moi. C'est un secret que je trahis, mais je suis sûr que vous ne m'en vendrez pas. Ils appartiennent à monsieur le marquis de Coulteret, notre propriétaire, que j'ai vu dernièrement et qui cherche un relieur d'art. Qui veuille bien se consacrer à sa bibliothèque dans des conditions assez exceptionnelles du reste, mais qui ne vous gênerait peut-être pas, vous, qui êtes son voisin. Je lui ai parlé de vous et il s'est servi de moi pour vous mettre à l'épreuve. Vous m'excuserez. » Je remerciais en balbutiant comme un enfant timide et confus. Cette histoire de livre m'intéressait peu, mais l'idée qu'elle avait pensé à moi, que j'existais pour elle, qu'elle avait fait un geste pour me rendre service, j'étais comme enivré. Tout à l'heure, j'avais abordé cette belle fille avec horreur, me demandant quel impassible métronome battait sur son corsage, et maintenant j'aurais baisé le bas de sa robe comme à la déesse de la pitié. Oui, oui, celle-là était adorable de bien vouloir se pencher sur mon abomination de sourire à ma hideur, car elle me sourit, orange. Tout de même, la nuit dernière, à cette place même, on lui a assassiné son amant. Cette idée, ressurgit en moi tout à coup, me fait chanceler. Mon regard stupide fait encore une fois le tour de cette pièce maudite qui ne me livre rien de son secret et puis s'arrête encore sur le bahut. Le bahut, d'où il est sorti et où ils l'ont peut-être rejeté en attendant qu'il lui fasse une autre tombe. Car il est peut-être encore là, le mort magnifique. Oh, je suis sûr qu'il y est. Une force dont je ne suis pas le maître dirige mes pas vers le meuble fatal. Où allez-vous, monsieur ? Oh, cette fois, il me semble que sa voix est moins sûre et que le geste avec lequel elle m'arrête a été un peu hâtif. C'est à mon tour d'avoir pitié. Je me ressaisis. Je dis n'importe quoi. Oh, c'est un vieux bahut normand. Ce n'est pas un bahut, monsieur, c'est une vieille armoire de la Renaissance provençale, tout ce qu'il y a de plus authentique, le seul meuble qui me reste de ma mère, monsieur, qui le tenait de sa grand-mère. Oh, il y a eu là-dedans de bien beau linge, et solide, comme on n'en fait plus à présent. Je m'incline pour prendre congé, elle me tend la main. Je sens que si je touche cette main de mes lèvres, je vais faire des folies et je me sauve. Après tout, il est mort et c'est le principal. Le vieux Norbert était dans son droit, le droit romain, le seul droit de vie et de mort sous son toit. Il est vrai que s'il a tué le monsieur à la cape, il n'a pas touché à un cheveu de sa fille. Oh, il a bien fait. Une créature pareille, c'est sacré, quoi qu'elle fasse. Brave pater familias, je lui serre la main dans sa boutique avant de courir m'enfermer dans la mienne. Tout cela est horrible.